Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et RFI. Nous recevons cette semaine un Belge qui a été longtemps président du Conseil chargé de mettre d'accord les chefs d'État et de gouvernement entre 2009 et 2014. Aujourd'hui toujours très engagé dans la rénovation de l'Union européenne. Vous nous direz comment d'ailleurs, Herman Van Rompuy. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes Premier ministre de votre pays, la Belgique. Quand vous êtes appelé à exercer ces nouvelles fonctions de président du Conseil européen, que vous cumulerez avec celle de président de la zone euro. Vous vous retrouvez donc en première ligne pour gérer cette crise de la dette qui enflamme toute l'Europe. Cette crise qui a failli faire exploser l'Europe est maintenant derrière nous. L'Europe a réalisé qu'elle devait se réformer pour mieux réagir à ce type d'événement. Mais il n'y a toujours pas de consensus sur les solutions à mettre en œuvre.
Alors cette semaine a été marquée mardi par exemple par le grand oral d'Emmanuel Macron devant les eurodéputés à Strasbourg avec son ambition de refonder l'Europe et d'éviter d'inutiles, je cite, guerres civiles européennes. Herman Van Rompuy, est-ce que vous le croyez capable d'entraîner tout le monde, les autres en particulier?
Je dirais tout d'abord qu'il s'agit, à mon avis, pas de réinventer l'Europe ou de refonder l'Europe, l'Europe existe, mais de redynamiser l'Europe. Ça, c'est autre chose. Donner de nouvelles énergies à l'Europe. Donc, moi, je suis plus modeste dans mes ambitions. Une deuxième chose, je crois que la situation s'y prête mieux aujourd'hui qu'il y a 2 ans, 3 ans, pour des raisons simples. D'abord, l'économie est dans un meilleur état maintenant. Il y a la France qui a un nouveau président. Même les populistes en Italie, en Autriche, même en France, ne parlent plus de quitter l'Union européenne et de la zone euro. Et donc le climat a tout à fait changé. Même après le Brexit, qui a été une opération douloureuse, qui ne s'est pas encore terminée d'ailleurs.
Alors le président Macron, quand il a été élu en France, il a tout de suite parlé de ses ambitions européennes. Et un an plus tard, on voit qu'au Parlement européen, il a surtout été applaudi par les libéraux. En revanche, les membres du PPE, la majorité conservatrice, dont vous êtes très proche, ont été plus réservés. Hein. Est-ce que vous partagez leurs réserves? C'est ce qu'on a cru comprendre à travers votre réponse. Est-ce que vous êtes favorable à l'émergence d'une nouvelle force politique En Marche? Parce que c'est aussi ça qui est à l'agenda du président Macron. Il a en tête les prochaines élections européennes dans un an.
Mais soyons clairs dès le début, je soutiens tout à fait l'initiative française. Je crois que c'est un bonheur pour l'Europe d'avoir un président français très européen. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Le niveau des ambitions, là, on peut en discuter. Alors, ce n'est pas les applaudissements qui sont un baromètre pour le degré d'adhésion. Bien sûr, on est au début d'un processus. Et j'ai une petite expérience, une expérience de 5 ans. Trouver un consensus, parce qu'il faut un consensus, entre 28 pays, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc ne soyons pas déçus dès le début. Je crois que c'est le départ d'une vaste entreprise, d'abord entre la France et l'Allemagne, et ensuite avec tous les autres États membres de l'Union européenne.
Est-ce qu'il doit y avoir une recomposition de la classe politique, du paysage politique européen pour réaliser cette rénovation?
Il ne faut pas. Donc il y a la leaders actuelle. Bien sûr, il y a toujours un changement. Moi, j'étais, pendant 5 ans à la tête du Conseil européen. Les 28, c'est 28 pays, mais j'ai connu plus de 60 premiers ministres et chefs d'État. Donc ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Vous savez, le Conseil européen, c'est pas un club homogène. C'est le reflet des démocraties nationales. Mais on peut travailler ensemble. On a réussi à survivre 2 grandes crises existentielles, la crise de la zone euro et la crise des réfugiés. Et c'est chaque fois à l'unanimité qu'on a trouvé des solutions. Mais ça prend du temps, comme l'initiative franco-allemande prendra du temps.
Alors justement, parlons-en, parce que ce jeudi, Emmanuel Macron est allé à Berlin justement rencontrer la chancelière sur les questions qui leur tiennent à cœur, en particulier qui lui tient à cœur celle de la zone euro, qu'il voudrait renforcer. Cette chancelière qui a l'air un peu bloquée quand même par sa coalition. Est-ce que vous croyez que l'axe franco-allemand va vraiment être un moteur dans ces changements?
Bien, je crois que l'Allemagne reste toujours en grande majorité un pays pro-européen. Bien sûr, il y a eu les élections, il y a eu cette émergence d'un parti populiste, il y a des partis traditionnels en fait qui regardent un petit peu trop, à mon avis, ce mouvement populiste. Donc je crois qu'il y a davantage ou plus de réserves maintenant en Allemagne qu'il y en avait avant les élections. Il faut être honnête.
Peut-être même au nord de l'Europe et aux Pays-Bas, sur la zone euro en particulier.
Ceci étant dit, pendant la crise grecque, il n'y avait pas l'unanimité en Allemagne sur, disons, la solution à donner à la crise grecque. Mais c'est la chancelière, à un moment donné, qui a fait un choix, qui a montré du leadership et du courage politique, même allant à l'encontre, à certains moments, contre son propre parti, ou une partie de son propre parti. Et donc, je crois qu'il y aura un moment de décision, et je fais confiance à ce don de leadership et de courage politique qu'elle a toujours.
Il y a un autre sujet où on voit que l'Allemagne est assez bloquée, c'est celui de la défense. Pour frapper en Syrie, le président Macron s'est tourné vers les États-Unis, naturellement aussi vers le Royaume-Uni, mais l'Allemagne, elle était absente. Et c'est ce que déplorent aujourd'hui pas mal d'éditorialistes de la presse allemande. Alors, est-ce que l'Allemagne peut prétendre au leadership en Europe si elle reste absente du terrain militaire?
Mais l'Allemagne a toujours été très réticente quant aux interventions militaires à
l'étranger. Est-ce qu'elle ne devrait pas changer?
Je ne crois pas que le temps est mieux pour ça. L'Allemagne a toujours, par son histoire récente, et on comprend, par la vocation d'être une force militaire et d'être à la pointe d'une intervention militaire. Et donc, c'était le cas dans le passé, et dans le passé, l'Allemagne a assumé son rôle, disons, de leader ou de co-leader de l'Union européenne et de la zone euro. Elle l'assumera même dans le futur. Mais elle sera toujours, disons, beaucoup plus restrictive ou beaucoup plus prudente sur le plan militaire que la France et d'antan le Royaume-Uni. L'Allemagne, je le répète, a une influence, une grande influence dans l'Europe, mais vu le poids historique, elle ne sera pas très présente sur le plan militaire.
Alors parlons d'un exercice auquel s'est livré aussi cette semaine Emmanuel Macron, le grand lancement des fameuses consultations citoyennes qu'il préconise depuis de longs mois maintenant. Une première réunion mardi à Épinal face à 450 personnes. Qu'est-ce qu'il faut penser, selon vous, de cette initiative? Ça relève de la communication, de la démocratie, c'est bienvenu?
Oui, mais ça relève du tout. C'est un exercice de communication, c'est un exercice pour aider la cause européenne. Vous savez, quand on est élu, et j'ai été élu pendant beaucoup d'années, on est en contact permanent avec la population. Ce genre d'exercice, je le faisais pendant toute ma carrière, pratiquement chaque semaine. Donc pour nous, c'est pas surprenant du tout. Et on pose des questions sur tout, politique nationale, politique européenne, etc. On est en démocratie. Mais je crois que pour la cause européenne très spécifiquement, qu'on convaincra les citoyens européens que par les résultats de notre politique, de nos politiques. On doit, et je caricature, mais c'est le fond de ma pensée. Si on ne parvient pas à faire baisser le chômage, ce qu'on est en train de faire dans pratiquement tous les pays, si on ne parvient pas à créer des emplois stables, si on ne parvient pas à arrêter une immigration illégale et massive, si on ne parvient pas à éradiquer le terrorisme, si on ne parvient pas à modifier, disons, nos politiques vis-à-vis du climat, les gens nous jugeront d'après nos résultats, pas uniquement par rapport à notre rhétorique, nos langages, nos exercices démocratiques, en fin de compte, ils nous croiront que s'ils voient que les choses changent.
Alors, effectivement, il faut du concret, des résultats, mais il faut aussi avoir quelques idées pour savoir comment mettre en œuvre cette politique. Eh bien, vous participez à la recherche des idées à travers le New Pact for Europe, le nouveau pacte pour l'Europe. C'est un groupe de réflexion animé par des fondations pro-européennes, dont la française Europa Nova. Et cette semaine, eh bien, vous étiez à Paris pour présenter votre dernier rapport. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à idées? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec ce reportage de Roxane Runel.
5 ans de débats, de rencontres entre citoyens et experts européens pour diagnostiquer les maux de l'UE et proposer des remèdes. Le nouveau pacte pour l'Europe entend redynamiser le projet européen, dit Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes.
D'abord, c'est un rapport très riche, puisque plus de 120 débats dans 17 États membres sur la méthode, ça correspond tout à fait à ce qu'on a poussé, ces consultations citoyennes pour l'Europe, qui maintenant sont organisées dans 27 États membres, partir du terrain, de la société civile, des citoyens, qu'est-ce qu'ils attendent de l'Europe, qu'est-ce qu'ils veulent.
Parmi les propositions, sur le plan économique, intensifier la lutte contre l'évasion fiscale ou encore mettre en œuvre un socle européen des droits sociaux. Sur le dossier migratoire, le rapport préconise d'accroître et d'accélérer les retours, mais aussi de mieux informer les réfugiés sur les conditions d'accueil dans les États membres. En matière de défense, il faudrait soutenir la coopération à l'aide d'instruments de financement adéquats, entre autres suggestions. Denis Simoneau, président du think tank Europa Nova, a coordonné le projet à travers la France.
Mais je crois que là aussi, ça tombe à un bon moment parce que nous avons dans un an des élections au Parlement européen. Il y aura à la fois le changement du Parlement, de la Commission, également le changement du président de la Banque Centrale Européenne, donc un grand moment finalement démocratique d'une certaine façon pour pouvoir faire émerger de nouvelles idées au niveau européen.
C'est aussi un moment européen de doute et de progression des idées et des partis populistes à travers toute l'Europe, où le dialogue et la créativité sont les bienvenus.
Herman Van Rompuy, dans votre rapport, vous pointez la montée des populismes avec la nouvelle victoire électorale de Viktor Orban en Hongrie, la victoire des partis extrémistes en Italie. Comme on a connu une crise financière, est-on en train de vivre en Europe une crise démocratique? Et si c'est le cas, comment la résoudre?
On vit en Europe, bien sûr, une crise pratiquement de société. Sinon, on n'aurait pas eu ce mouvement populiste. On vit la même chose au Royaume-Uni, sinon le Brexit ne serait pas là. On la vit aux États-Unis, sinon le président Trump ne serait jamais élu. Donc il ne faut pas nier la crise de société dans laquelle on vit. Et bien sûr, il y a une très grande inquiétude, une très grande peur aussi de l'avenir. Mais il ne faut pas être étonné. Il ne faut pas oublier qu'on vient de vivre une crise bancaire où l'épargne des gens était en danger, ce pour lequel ils ont travaillé toute leur vie. À un moment donné, il y a eu la crise de la zone euro. La monnaie sur laquelle tout est basé dans notre vie économique, dont dépendent nos emplois, était en danger. Et en 2015-2016, il y a 1 million de gens qui viennent du dehors de l'Union européenne qui s'enfuient direction l'Union européenne et quelques pays même, très spécifiquement dans l'Union. Et il y avait 3 ou 4 millions qui étaient dans la salle d'attente. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une grande inquiétude et une peur en Europe. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de stabiliser la zone euro. C'est important que la zone Schengen, où on peut voyager sans carte d'identité, sans visa, etc., soit mieux protégée. Et il faut que, en fait, les Européens soient plus rassurés, soient plus protégés. C'est le président Mitterrand qui disait, déjà il y a 20 ans, il faut une Europe qui protège. Et ça, c'est, le travail à faire, et sur le plan national, et sur le plan européen, mais aussi sur le plan national. C'est le plus grand travail. Les populistes, il faut les battre politiquement, en entrant dans le débat avec eux, mais il faut les battre sur le terrain, En s'organisant qu'il y ait moins de chômage, moins d'immigration illégale, etc., etc.
Dans certains pays de l'Est, il y a quand même, on constate que les populismes vont jusqu'à dériver vers une forme d'autocratie, mettant finalement à mal les contre-pouvoirs. Est-ce que vous le pensez comme la Commission l'a suggéré, comme certains pays aussi, qu'il faut conditionner désormais les subsides européens, les fonds structurels, au respect réel de l'état de droit? Est-ce que ça, c'est une bonne démarche?
Eh bien, la Commission européenne a engagé une procédure contre la Pologne. Il se peut qu'ils engagent aussi une procédure contre la Hongrie. Mais il se peut aussi que ces procédures ne mènent à rien, puisqu'on doit prendre ces décisions à l'unanimité. Si la Hongrie vote contre les mesures contre la Pologne et la Pologne vote contre les mesures contre la Hongrie, il n'y a plus d'unanimité. Donc il faut, dès à présent, songer à d'autres moyens pour faire pression sur ces pays. Et donc le lien entre l'allocation de fonds structurels et le respect de certaines valeurs essentielles, moi je trouve que c'est une bonne idée. Ceci étant dit, c'est pas si facile à mettre en œuvre, mais il faut avoir cet instrument pour faire pression. On peut pas être le champion de la démocratie dans le monde et ne pas faire respecter les libertés essentielles au sein de l'Union européenne.
Herman Van Rompuy, dans un an, donc, il y a ces élections parlementaires européennes. Au vu des résultats nationaux, il y a un vrai risque d'avoir un raz-de-marée europhobe au Parlement européen. Est-ce que c'est une perspective que vous redoutez?
Bien, je ne suis pas si certain que de raz-de-marée. On l'a dit aussi la fois passée. Il y a eu une augmentation du nombre d'élus europhobes ou populistes, c'est vrai. Mais la situation est plus compliquée que vous ne le croyez. Hein. Il y a, par exemple, le parti de M. Orban. Bien sûr, il y a des positions que moi je rejette complètement, et ils le savent d'ailleurs. Mais quand on parle de l'Europe, les partisans ou de M. Orban au Parlement européen, ils sont 13 ou 15, j'ai oublié le nombre 12. Exact, et ils votent pour toutes les réformes qu'on a entreprises. Ils ont voté pour toutes les réformes qu'on a entreprises et ils voteront pour des, je crois, s'il y a un accord au Conseil européen, voteront.
Parce qu'ils sont dans votre parti, le Parti Populaire Européen, c'est ça en fait.
Non, je dis simplement, ce sont les faits. Ce que je dis, ce sont les faits. Ils ont des positions très, très spécifiques quant à l'immigration, mais quant à la réforme de l'Union européenne et de la zone euro, ils ne sont pas membres de la zone euro, mais de l'Union européenne, eh bien, dans le passé, ils ont suivi toutes les positions majoritaires.
Ça les dédouane du reste ?
S'il vous plaît ?
Ça les dédouane du reste ?
Non, pas du tout. Donc, j'ai fait la distinction entre les deux genres de position.
Juste pour terminer, peut-être une dernière question sur les négociations d'adhésion qui ont ouvert cette semaine pour l'Albanie et la Macédoine. Le Conseil européen doit encore donner son aval le mois prochain. Et on sait bien que l'élargissement, c'est désormais un concept qui est soutenu par le groupe de Visegrad à l'est de l'Europe, mais beaucoup moins par l'ancienne Europe, comme on dit.
Oui, on en a parlé déjà de mon temps. On a parlé à ce moment-là de la fatigue qu'il y avait. Mais ça n'a pas empêché d'accepter la Croatie comme membre de l'Union européenne. C'était en pleine période de soi-disant fatigue de l'élargissement qu'on a accueilli un nouveau membre. Si les négociations avec la Serbie, parce qu'on est en train de négocier avec la Serbie, et l'Albanie conduisent à un accord, je crois qu'on doit accepter ces deux pays dans l'Union européenne. Il s'agit de la paix. La guerre civile peut reprendre dans ces pays-là. Ça a coûté la vie à 34 ou 35 000 hommes et femmes innocents. Il faut bien se réaliser que l'élargissement, ce n'est pas une opération technique. Avec l'arrière-pensée, on est déjà à 28, ça suffit, un 29e, c'est de trop. Non, c'est le concept même de l'Union européenne qui est en jeu.
On sera bientôt 27, en tout cas, Herman Van Rompuy. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie.
Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'information sur France 24 ou bien sur Radio France Internationale.